Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr et aussi sur les ondes FM en 107.5. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la compagnie des non-alignés et qui sont représentés là autour de la table, à commencer par Clémence Longy. Bonjour.
Bonjour.
Clémence Longy, vous êtes metteur en scène, scénographe, comment dit-on ?
Non, metteuse en scène du projet.
Metteuse en scène, voilà, c'est encore un bon sujet d'introduction. Ensuite, il y a Antoine Villard.
Oui, bonjour.
Bonjour, et pour finir, Jérôme Cochet.
Oui, bonjour.
Bonjour, et alors tous les trois vous êtes ici parce que le jeudi 4 avril à 20h au Théâtre de Die, vous présenterez votre création sur laquelle vous travaillez depuis au moins 2 ans, si ce n'est plus, et qui s'intitule « Tu dors toute seule », un jeu de mots d'emblée.
Un jeu de mots, oui, un jeu de mots léger, puisqu'en fait c'est une adaptation de la pièce de Victor Hugo, « Marie Tudor », et c'est une adaptation pour une actrice, seule. D'où ce Tudor, en un seul mot comme le nom de la reine, toute seule.
Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce texte de Victor Hugo ?
Bah, à l'origine, évidemment, il y a un goût pour la pièce, qui est, et puis pour le théâtre de Victor Hugo, qui est un théâtre qui permet énormément de liberté, qui est très, très fort, qui permet d'inventer beaucoup de choses. Et qui est très libre. Cette pièce-là en particulier, parce que je trouve que parmi les pièces en prose, c'est une des 4 pièces en prose de Victor Hugo. Celle-ci, qui est située en Angleterre, est plus riche en termes d'intrigue politique, puisqu'on est déjà sur les prémices de l'histoire politique moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, alors que les autres pièces de Victor Hugo, situées essentiellement en Italie, sont sur des plus petites factions et donc ont une portée qui me semble moins intéressante aujourd'hui en termes politiques. Voilà.
Avant de continuer, on pourrait peut-être résumer ce quoi parle ce spectacle.
Ouais.
Parce que c'est une pièce très dense, très longue. Hein. On l'a dit, il y a 8 lieux, 14 personnages, 176 pages. Mais en quelques mots, c'est une intrigue finalement assez simple. Ça se passe à Londres en 1553 et c'est l'histoire de Marie Tudor. Marie Tudor qui est dame et reine d'Angleterre et qui est la fille de Henri VIII. Henri VIII qui a inspiré le personnage de Barbe Bleue, donc un roi sanguinaire. Et Marie Tudor est elle-même une reine sanguinaire qui fait régner la terreur dans Londres, dans toute l'Angleterre. Mais cette Marie Tudor a une faille, elle est amoureuse d'un homme, Fabiani, qui la trompe. Et toute la pièce va tourner autour de cette histoire d'une reine prise entre sa fonction de reine, qui l'oblige à assumer cette posture, et à son amour pour cet homme, donc le favori.
Antoine, tu veux faire ça peut-être ?
Oh là là. Oui, bah alors ce spectacle, donc c'est l'histoire de Marie Tudor, et plus exactement c'est une histoire d'amour en quelque sorte, ou plusieurs histoires d'amour entremêlées, au moins deux, à la cour de Marie Tudor, donc la fille de Henri VIII, qui est une reine un peu particulière dans l'histoire anglaise, puisque dans la mémoire politique qu'on peut en avoir, c'est en quelque sorte une reine contre un peuple. Marie Tudor, c'est une reine catholique qui succède alors à deux rois protestants, Henri VIII qui évidemment rompt avec l'Église catholique, et puis son successeur Édouard. Et donc, c'est une reine qui se retrouve comme ça, à la tête d'un pays qui, a priori, lui est pas d'emblée soumis. Et c'est une reine qui fait face à une certaine hostilité. Donc, elle a en quelque sorte tout le monde contre elle. Et à l'exception d'une personne, de son favori, Fabiani, qui se trouve être aussi... Le personnage le plus immoral et le plus corrompu de tout son royaume. Donc il y a une espèce de cohérence un peu bizarre dans cette attraction-là. Et sauf qu'évidemment, Fabiani s'accapare les biens, elle s'accapare les biens des grands, Fabiani opprime le peuple, et Fabiani trompe Marie. Donc on a ici les ingrédients d'une intrigue de palais, puisque c'est Marie Tudor, c'est largement l'histoire d'un complot, ou à vrai dire de plusieurs complots qui s'entremêlent, mais essentiellement d'un complot qui vise à renverser Fabiani. Mais du coup, évidemment, cette intrigue de cour va rencontrer des enjeux bien plus importants, parce que c'est l'Angleterre du XVIe siècle, c'est l'Angleterre d'après la Réforme et d'avant la Glorieuse Révolution qu'intervient au siècle suivant. Donc évidemment, dans l'imaginaire politique de Victor Hugo, il y a une sorte de grondement révolutionnaire qui déjà parcourt la pièce. Et on a ici une intrigue de cour, une intrigue amoureuse qui rencontre les grands enjeux politiques.
Est-ce que le texte de Victor Hugo demeure fidèle aux faits d'histoire?
Ah oui, enfin, il y a pas mal les personnages. Certains des personnages sont inventés, bien sûr, mais le fond de l'histoire est vrai.
Bah, disons qu'en tout cas, ce qui est les faits d'histoire qui sont rapportés dans la pièce sont vrais. En tout cas, je pense qu'ils correspondent à l'idée que Victor Hugo se fait de l'histoire anglaise à cette époque. Et après, c'est sûr que Victor Hugo va couler une intrigue amoureuse dans tout ça, dans tous ces mouvements politiques de l'histoire anglaise, qui l'intéresse beaucoup par son énormité, par ce qu'elle raconte, parce que tous les noms qu'on rencontre dans cette histoire anglaise déjà sont pour Hugo une source de fascination, et il a une très grande attention aux petits détails qui font l'histoire, tel noble qu'on retrouve dans un arbre après une bataille ou ce genre de choses.
Alors je vois dans le texte de présentation, vous citez 8 lieux, 14 personnages. Vous êtes combien sur scène pour cette interprétation ?
Sur scène, une. À la création, on était plus. Et il y a, pendant la durée de la représentation, deux régisseurs qui ont été aussi les créateurs, qui sont tout à fait actifs, puisque le spectacle est conçu comme un espèce de dialogue entre les personnages, mais interprétés par une seule actrice, à savoir moi, en dialogue avec une grande machine théâtrale. Puisque l'idée de ce spectacle, c'était de prendre cette intrigue politique et d'en faire une mise en scène de rouage, de mise sur écoute. Donc il y a un travail sonore qui se fait en direct. Il y a des choses qui sont parfois enregistrées pendant comme des pièces à conviction, qui peuvent être réécoutées après. Et donc en vrai, c'est pour moi au plateau, je le vis comme un duo avec essentiellement le son. La lumière aussi, en fait, ce serait presque un trio. Et on serait presque un quartet si je prends en compte aussi le décor qui est plein de trappes, plein de poulies. C'est très ludique et je me sens pas seule du tout. Mais physiquement, c'est un seul en scène.
C'est en quelque sorte la construction d'un spectacle que vous proposez ?
C'est pour moi, c'est un peu plus que ça. Parce que certes, il y a évidemment un parallèle et un parallèle qu'on a voulu exploiter entre la machinerie théâtrale et la machinerie politique. Donc, effectivement, il y a une correspondance entre les poulies, les trappes, les bandes magnétiques qui sont à vue et les mises sur écoute, les complots. Les manigances politiques. Donc pour moi, c'est vraiment une chose deux choses qui se superposent.
Antoine et Jérôme, quelle est votre fonction alors pendant le spectacle proprement dit ?
Pendant que ça joue ?
Oui.
Moi, je ne fais rien.
Ah. Moi non plus.
D'accord. J'essaye de m'éclaircir, hein, parce que je vois compagnie, donc j'imagine que vous êtes plusieurs à jouer. Oui. Et puis finalement, j'apprends que la comédienne Metteurs en scène est seule aussi sur le plateau. Voilà. Et donc, je me dis, par exemple, qui balance le son? Comment ça se passe? Il y a une régie quand même pour spectacle.
Ah bah, il y a une régie assez conséquente. Même.
Ouais.
Donc, il y a une personne sur le plateau, mais il y a plein d'autres choses à faire. Donc, il faut lancer des top lumières, lancer des top sons, il faut monter le décor, démonter le décor, régler le décor, régler le texte, conduire le camion. Donc, on ne chôme pas. Pendant le spectacle, Antoine et moi, nous ne faisons rien parce qu'Antoine est dramaturge, donc il travaille à la collaboration sur l'écriture du texte. Et moi, j'ai fait le décor et je m'occupe de la régie en tournée. Donc, tout ce qui est montage, démontage, stockage, chargement du décor, etc. Et il y a encore deux régisseurs qui s'occupent du son, de la lumière. Donc
en fait,
voilà.
Même pour là, Adi, ils sont même quatre, puisqu'on est en train de créer une deuxième équipe de tournée. Et jusqu'à présent, on partait en tournée avec les créateurs, Antoine Prost et Arthur Guédan, qui ont créé le son et la lumière du spectacle et qui assuraient la régie. Et là, maintenant, on va même former une deuxième équipe de régisseurs. Donc, vous voyez, on est nombreux.
Le texte de Victor Hugo, vous l'avez pris comme une œuvre de théâtre, en premier lieu?
Ah oui, oui. Oui, c'est une pièce de théâtre de sa première période à peu près. Ça a été écrit en 31, je crois.
En 31, oui, immédiatement après Lucrèce Borgia. Donc c'est un des...
Ça fait partie des grandes pièces de théâtre en prose donc de Victor Hugo. C'est pas très souvent monté, Marie Tudor. Effectivement.
Donc, il y a 14 personnages,
ça,
d'accord, mais 8 lieux, comment vous les assemblez vous-même, les décors, ou comment c'est dans l'imaginaire, tout ça?
Tout ça, je ne sais pas si je peux tout vous raconter, parce qu'il faut garder un peu de mystère autour de ce spectacle. Et c'est vrai que le côté performatif fait partie un peu de l'originalité du spectacle. Il y a 8 lieux dans la pièce, écrite par Victor Hugo. A priori, nous ne changeons pas de décor.
Ce qui n'empêche pas quelques surprises.
Mais c'est vrai que c'est aussi une confiance en l'imaginaire que nous essayons de conduire avec ce spectacle.
Clémence Longy, donc metteuse en scène, qu'est-ce que vous pensez justement de cette réforme de l'orthographe et de cette acceptation de l'Académie française sur la féminisation des noms de métiers?
Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Je vois pas complètement en quoi c'est un souci. Je sais pas. Ça vous choque, vous?
Pas du tout.
Par exemple, quand je dis metteuse en scène, moi, j'ai l'impression que c'est mon métier. Je suis metteuse en scène. J'y mets pas une plus d'importance que ça pour moi, mais il se trouve que c'est ce que je fais, et il se trouve que je suis une femme.
Non, mais je posais la question, puisque je vous ai présenté comme metteur en scène, vous m'avez repris metteuse en scène.
C'était pas pour vous reprendre, c'était pour...
Ah, d'accord. Voilà.
Pour parler à ma manière.
Très bien. On peut quand même parler de vous aussi, votre carrière. Vous avez eu une formation théâtrale, je suppose.
Oui. Moi, j'ai eu une double formation littéraire, universitaire et puis théâtrale au cours Florent et puis à l'ENSAT où j'ai rencontré Jérôme d'ailleurs et puis une grande partie de l'équipe d'ailleurs. Antoine, je l'avais rencontré plus tôt justement quand je faisais des études de littérature. Et puis voilà, et puis on a terminé nos études en 2014 et tout de suite en sortant de l'école on a créé la compagnie et on a fait plusieurs spectacles jusqu'ici. Parallèle de ça, moi j'ai une activité de comédienne, en dehors de la compagnie aussi. Voilà ce que je dirais. Ce qui est un peu notre cas à tous en fait. On participe à cette compagnie, on participe à l'enrichir et à travailler à cette compagnie. Et puis évidemment, pour un, vivre et deux, se nourrir et s'enrichir de tas de choses, on travaille tous aussi en dehors de la compagnie.
Et les autres spectacles, vous êtes toujours aussi seul sur scène?
Non. Non, pas du tout. Enfin, c'est le deuxième seul en scène de la compagnie. Il y en a eu un autre qui était écrit par et interprété par Daniel Leocadi, qui s'appelait Kissa Milé. Mais sinon, tous les autres spectacles de la compagnie, non, sont avaient plusieurs acteurs. Guerre, il y avait 5 acteurs. Destin, vous êtes 6. Origine, vous étiez moins 5. C'est ouais. ça. Et puis Nevermore aussi, qui a été créé l'année dernière, ils étaient trois. J'en oublie, non ? Je crois que c'est...
Peut-être, je sais pas. Non, mais c'est à peu près...
Le choix de Marie Tudor émane de vous tous, ou alors quelqu'un se met en avant pour porter ce texte ?
Ah bah là, c'est Clémence qui s'est emparée du texte avec, avec passion, et on a, et elle nous l'a communiqué. Mais c'est comme ça que ça s'est fait.
C'est un peu le principe de la compagnie. Peut-être que Jérôme peut vous en parler, mais on n'est pas un collectif, on est une compagnie. Mais l'idée, c'est que chacun peut porter un projet.
Voilà, on a un peu conçu cette compagnie comme, comme une coopérative de projet, on pourrait dire ça. On est sorti de l'école, on n'avait pas forcément dessein de créer un collectif d'acteurs qui travaillent toujours tous ensemble au plateau. Et pour autant, on n'avait pas forcément envie de se fédérer derrière une personne qui serait le capitaine de la compagnie. Et donc est venu un petit peu ce mode de fonctionnement où on est des porteurs de projets multiples, on se succède, on a chacun des univers très particuliers. Et un porteur peut proposer un projet et puis monter une équipe autour de lui qui va rassembler des personnes qui déjà gravitaient autour de projets précédents ou pas. Et ça crée cette espèce de foisonnement de projets assez variés finalement. Et d'où le nom de la compagnie qu'on nous demande souvent, qui s'appelle Les Non-Alignés. C'est à la fois pour ces porteurs de projets qui s'estiment, qui se respectent, qui travaillent ensemble, mais qui ne sont pas forcément alignés sur un mode de création commun. Et aussi dans le désir de convoquer des théâtres très différents. Donc là, un seul en scène sur l'écriture classique, mais de l'écriture contemporaine, des choses en territoire, des choses écrites au plateau. Voilà, il y a des choses extrêmement variées. C'est ça qui finalement donne corps à ce qu'est cette compagnie.
Jérôme, toi-même, as-tu une formation dans le théâtre ou dans le spectacle vivant ?
Oui, moi j'ai été formé comme acteur à l'ENSAT avec Clémence.
Et vous êtes retrouvé tout de suite après les cours Florent et l'ENSAT, vous vous êtes retrouvé sur les routes tout de suite à travailler ensemble.
Sur les routes, pas forcément, à travailler ensemble
assez vite,
ouais. Mais sans que ça, comme le disait Clément, sans que ça exclue d'autres projets, donc c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Et on ne fait pas notre vie ensemble, on fait une partie de notre vie ensemble.
C'est quand même le théâtre qui vous intéresse le plus dans le moyen d'expression ?
Pour l'instant, oui. Pour l'instant.
Antoine, donc toi, tu es présenté comme dramaturge.
Ouais.
Toi, c'est pareil, tu as dû avoir une formation universitaire en quoi, par exemple ?
Alors moi, à la base, je viens des études littéraires. Donc j'ai fait l'ENS à Paris en lettres. Je crois qu'à un moment, j'ai eu une agrégation de lettres modernes. Et puis après, je me suis demandé quoi faire de tout ça. Et comme de fait, je ne faisais à peu près que du théâtre dans ma vie, j'ai continué là-dedans. Et donc, c'est ce que je fais maintenant. Et sur un projet comme celui-ci, effectivement, j'essaie de mettre à profit une certaine expérience de l'approche des textes littéraires. bon, qu'on a tous évidemment, mais qui fait ma niche sur ce projet-ci.
Ce que je voulais savoir de vous trois, c'est vous avez certainement pris des chemins. Et qu'est-ce qui a fait que le théâtre a été un croisement pour vous?
Ça fait partie des questions compliquées. Puis je pense qu'on a une réponse
pour chacun.
Pour chacun, bien sûr. Le théâtre, ça prend énormément de temps. On n'arrête pas du tout d'y penser. Moi, j'arrive pas. J'en rêve la nuit. Ça devient dévorant et c'est devenu dévorant il y a quelques années déjà. Et donc, en fait, pour moi, c'est plutôt au gré de mon chemin de vie. Je me suis retrouvée à faire l'ENSAT, à faire machin, à être engagée dans tel endroit et puis à me rendre compte qu'en fait, je ne faisais plus que ça. Et c'est comme ça que c'est devenu la chose la plus importante. Et je pense que si on y consacre tant de temps, c'est que ça vient attiser des questionnements profonds et évidemment me passionner.
Et puis en fait, c'est ça. C'est surtout qu'à un moment, on se rend compte qu'on ne fait plus que ça. je crois que c'est généralement le tournant se remarque toujours après, quoi. En fait... Il vient un moment où simplement on décide d'être en accord avec quelque chose qu'on faisait déjà. Je ne sais pas s'il y a une décision qui vient à un moment de se mettre à faire du théâtre alors qu'on n'en faisait pas. J'ai l'impression plutôt que c'est quelque chose de plus organique qui se fait sur la durée.
Et pareil pour Jérôme donc.
Ouais.
Voilà. Ouais, ouais. C'est joliment répondu. sans aucun regret donc.
Oh ben non, on va pas commencer à avoir des regrets. Non, non.
Donc, jeudi 4 avril, vous jouez au théâtre. C'est un spectacle qui dure 1h15 environ.
Ouais.
Le texte de Victor Hugo a été facilement adaptable dans la durée et dans son utilisation intégrale, je suppose.
Oui, alors il y a quelques coupes. Ça c'est le travail qu'on a fait avec Antoine.
Ouais, des coupes et puis bon quand même un petit travail de montage et puis un travail d'interprétation, c'est-à-dire que il s'agit c'est un énorme drame romantique avec un grand nombre de personnages et nous on en faisait une version on en a fait une version pour une seule actrice, donc pour Clémence. Et l'idée qui nous animait, c'était que ce soit pas juste une réduction, simplement un format poche. C'était d'arriver à trouver quand même, à trouver un peu l'énormité de cette chose-là, mais dans un seul en scène, à faire en sorte en réalité que la présence d'une seule actrice sur la scène qui passe par tous ces états, par toutes ces situations, amplifie en réalité plutôt la puissance dramatique de la pièce qu'elle ne la diminue. Et donc c'est vrai que très vite est née cette idée de faire une espèce de théâtre-machine et donc de montrer une comédienne, mais aussi une reine, mais aussi, à vrai dire, pas mal de monde en plus, aux prises avec une machine, une énorme machine qui renvoie elle-même à une énormité bien plus énorme encore, celle de l'histoire, celle du monde, celle de l'Angleterre. Bon, on va se limiter à l'Angleterre peut-être. Et voilà. Et du coup, après, il y avait beaucoup d'adaptations à faire, notamment sur la question de la parole rapportée. Bon, c'était des questions un peu techniques qu'on se posait sur l'interprétation vraiment de chaque portion de texte et la façon dont ça pouvait se traduire avec des enregistrements, avec ce genre de choses, en ayant quand même l'exigence fondamentale de ne jamais raconter quelque chose qui n'était pas dans la pièce, enfin d'exploiter ce matériau-là, le matériau hugolien.
Oui, il n'y a que du, on dit adaptation, mais il n'y a que du Victor Hugo.
Ah oui, on n'a rien inventé du tout, hein, ça c'est la chose qu'on a...
J'imagine parfois qu'il y a plutôt des coupes ou une remise à jour, dirait-on, pour la compréhension du texte, parfois c'est nécessaire. Non.
Alors ça c'est très étonnant parce qu'en fait non. Et plus on se tient au texte tel qu'il est, et même à tous ces noms. Au début, on s'est demandé, est-ce qu'on garde toutes ces listes de noms, de nobles, de personnages anglais, on ne sait pas qui c'est. Et en fait, les garder apporte une espèce de jubilation et puis de richesse, quand bien même exotique, j'ai envie de dire, d'une part par leur sonorité anglo-saxonne et puis d'autre part par l'éloignement de tous ces titres. Et en vrai, c'est très enfin, moi, je trouve que ça ne pose aucun problème, au contraire.
Bah oui, parce qu'au fond, c'est le travail que Victor Hugo lui-même a fait. C'est-à-dire que Victor Hugo avait tout ce matériau historique. Il s'est amusé d'ailleurs à chercher des choses assez obscures, des chroniques latines du règne de Marie Tudor ou des choses comme ça, toutes sortes d'informations un peu improbables que son public ne possédait pas du tout. Il ne faut pas imaginer que tout le monde sait tout au théâtre de la Porte Saint-Martin quand on joue cette pièce en 31. Mais justement, Hugo a cherché déploie une écriture qui a une puissance de suggestion immense et qui fait fond surtout même sur le fait en réalité que ce matériau historique soit inconnu pour suggérer quelque chose de très profond, de très puissant et en même temps de très drôle et de très jubilatoire.
Et de très drôle parce que c'est l'écriture de Victor Hugo est une écriture qui a qui est très, très 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 drôle. Le spectacle est drôle, enfin le spectacle est drôle, le spectacle est beaucoup de choses. L'écriture de Victor Hugo est beaucoup de choses, mais aussi drôle. Et ça participe aussi.
Comment s'est opéré le choix des 14 personnages en tant que comédienne? Quelle intensité vous donnez à chacun d'eux? C'est un choix qui s'est opéré avec toute l'équipe, je suppose.
Oui, c'est aussi une sensibilité et puis c'est beaucoup lié à mon imagination aussi. C'est comment moi je me représente tous ces personnages et donc vers quoi je vais assez naturellement.
Ouais,
quand je lis la pièce, est-ce qu'il a un accent aussi? Quels sont c'est des questions d'interprétation pure quoi. Ça.
C'est ce dont tu as besoin pour construire l'action pour construire l'action dramatique quoi. C'est quelque chose.
Oui, tout à fait.
C'est un travail quand même difficile, je suppose, à conserver tout au long du spectacle. Ça n'arrive pas, par exemple, de se tromper de personnage qui joue le rôle de quelqu'un d'autre?
Non. Parfois, il y a une petite contamination. Par exemple, il y a une scène vers la fin du spectacle où, quand même, sur des choses, Tu dors toute seule, c'est un spectacle qui demande beaucoup beaucoup d'énergie parce que ça va très vite, il se passe mille choses, il faut être très précis. Mais du coup, petit à petit, quand même, moi, je gagne en confiance et je me détends un peu. Et y a notamment une partie une scène de la troisième partie qui est totalement burlesque et qui se passe entre un personnage que moi je fais avec un accent du sud et une jeune première qui parle un peu comme ça et avec des échanges de répliques qui sont très 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 rapides. Et il arrive que finalement la jeune première, elle est l'accent du sud qui vient de se rajouter à ça. Mais c'est d'une part c'est bref et puis la forme du spectacle permet cette forme de connivence avec le public. Donc moi c'est pas du tout quelque chose qui m'angoisse ou qui me pose problème puisque une fois que tous ces codes-là sont établis, en fait quand bien même ça arriverait, je pense que le public quelque part presque on serait ravi parce que c'est un effet de réel et de présent qui est agréable au théâtre, enfin, je trouve.
La vie d'artiste, de spectacle, comment est-elle pour vous actuellement?
Chargée. Bien chargée. Passionnante. Pour tout le monde, je pense.
Oui, pleine de questions aussi. Parce que où est-ce qu'on l'a fait? Comment on l'a fait? De fait, nous la faisons. Et je ne crois pas que nous ayons prévu les uns ou les autres de nous arrêter. Mais c'est vrai que ce sont des métiers où on est un peu constamment en réflexion sur notre métier même. Je ne sais pas si ça répondait à votre question.
Si, si. Mais le contexte, je parle par rapport au contexte actuel aussi.
Bah, comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est de plus en plus difficile, mais pas plus que tout le monde, j'ai envie de dire. Je ne sais pas, hein, après, ce que vous en pensez, vous, mais les enjeux sont les mêmes.
Et puis, vous avez certainement un site internet pour la compagnie des non-alignés.
Oui. Ouais,
c'est www.lesnonalignés.com, sans espace, sans tiret, sans accent.
Voilà. Eh bien, je crois que l'émission se termine. Et donc, je remercie Clémence, Antoine et Jérôme d'être venus nous parler de leur spectacle de la compagnie des non-alignés qui s'intitule Marie Tudor.
Ça s'intitule Tudor toute seule, du coup,
ah,
le spectacle.
Ah oui, Marie Tudor toute
Marie
seule.
Tudor, c'était la
C'est Tudor toute seule, tout simplement. Et puis, donc, ça sera au théâtre le jeudi 4 avril à 20h.
Merci beaucoup.
Merci, à jeudi.
Oui, bonne soirée, au revoir.
Hey, the bird.
L'interview du jour.